Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici donc ensemble ce soir pour la suite du roman de Alice Fernet, Grâce et Dénuement. Misia aimait être seule. C'était le comble pour une gitane. Mais les autres se l'expliquaient, sa mère était une gadjée espagnole. « Ce que tu veux, c'est ce qu'ont jamais les gitans, » lui disait Lulu. « Alors je veux plus être une gitane, » criait-elle à son mari. « Et t'es rien d'autre, » répondait-il. Il n'avait jamais compris qu'elle eût ses désirs compliqués. Mais c'était ce qui l'avait attiré. Il avait voulu la serrer sur son cœur. Après l'avoir touchée, il n'avait plus pu la lâcher. Elle le tenait par sa peau. « T'es chanceuse d'avoir la peau douce !» disait Lulu. Elle riait. Il s'en félicitait. « Ah !» s'exclamait-il en l'entendant. Et elle était agacée. Il secouait la tête. Mais que fallait-il donc faire pour la contenter ? Il se roulait une cigarette. Misia était déjà à étendre du linge ou à ranger. L'intérieur de sa caravane était douillet comme un nid. Elle s'y enfermait le soir pour coucher les enfants, laissant Lulu dehors près du feu avec ses frères. Il était dans le froid pendant qu'elle écoutait les petits s'endormir l'un contre l'autre en se disputant. « Aïe, tu me donnes des coups de pied !» disait Sandro. « Mais t'as qu'à t'arrêter de ronfler !» répondait Anita. Mais d'ailleurs, c'est moche, ajoutait-elle. Je m'en fous, je suis pas là pour te plaire, répondait le garçon à sa sœur. Chut, disait Misia. Il finissait par s'endormir, emmêlé dans le minuscule espace qui leur était imparti, s'interdisant de passer la frontière imaginaire qui coupait leur lit en deux. Tu dépasses de ton côté, disait Anita. « C'est pas vrai !» disait Sandro. « Je suis au bord, mais je dépasse pas !» Lulu ouvrait la porte pour entrer. « Mais j'ai pas fini de ranger !» disait Misia. Elle cherchait des prétextes pour rester seule. « Tu pouvais pas le faire avant ?» disait Lulu. « Ça pince !» Il parlait gentiment. Le haut de ses oreilles était violet et le bout de son nez rouge. Misia riait de le voir transi et tout déconfit devant elle. Un pincement d'amour l'étreignait. Oui, pensait-elle. C'était à cela qu'elle reconnaissait l'amour. Elle ne pouvait pas voir souffrir Lulu. Elle lui passa le bras autour du cou pour l'attirer à l'intérieur. Elle était ainsi faite, pensait Lulu, changeante, solitaire et capable d'une tendresse confondante. Elle l'embrassa sur la bouche. Les enfants dormaient. Misia avait jeté un œil vers leur matelas. « Tu es belle !» murmura Lulu, qui était bouleversée quand Misia avait du désir. Le feu mourait au milieu de la nuit. « C'est vivant, le feu !» disait Angéline aux enfants. « Et il y a un mec qui se débat dedans !» disait Michael en imitant la danse des flammes avec ses bras. Et quand les flammes de plus en plus petites se tassaient jusqu'à rentrer dans les braises, « Bah, il y a le mec qui a faim !» disait-il à sa grand-mère. Elle ajoutait quelque chose pour relancer une flambée. « T'y crois ?» disait-il en pointant l'index sur Angéline. Ils riaient ensemble, elle montrait ses dents noires. « Oh, t'es pas belle quand tu ris, grand-mère !» disait l'enfant. Le feu était la vie d'Angéline. Elle restait des journées entières à regarder les matières et objets hétéroclites qu'elle y jetait se tordre, fondre ou noircir avec des odeurs diverses. La fumée sortait noire, et aussitôt prise par le vent se dispersait un instant avant de repartir en paquet dans la direction où ça soufflait. La vieille ne craignait pas la fumée. Ses yeux ne pleuraient pas. « Tu brûles n'importe quoi !» lui disait Lulu. « Moi, j'aime pas cette odeur !» Il interdisait à Missia de rester comme la vieille à s'imbiber. « Après, tu pues !» disait-il. Elle obéissait. Sauf les jours où elle avait envie d'être tranquille. Ces jours-là, elle venait s'accroupir à côté d'Angéline, attendant que l'odeur pénétrât ses vêtements et ses cheveux, et peut-être même sa peau. « Tu sens encore le lard !» disait Lulu, furieux. « Va dans ton coin !» Il la poussait jusqu'à parfois la faire tomber du lit. Par terre, elle riait de le gruger comme elle voulait. Puis elle se recouchait sur le côté, les deux bras repliés sur sa poitrine, et elle sentait que sa peau était réellement douce. Angéline voyait le manège de sa belle-fille. « La petite est maligne, » pensait-elle. « Moi, le mien, il dormait comme un bébé, » dit-elle un jour que Missia venait de s'imprégner. Missia ne savait quoi répondre lorsque sa belle-mère lui parlait ainsi. Elle restait sans rien dire. « Moi, le mien, il dormait comme un arbre, » dit la vieille un autre jour. « Et vous, ne dormiez pas ?» avait répondu Esther. Et c'était aussi ce qu'avait pensé Missia sans le dire. Lulu tenait de sa mère. Angéline eut un sourire des yeux. Elle se revoyait dans sa pleine jeunesse. « Donne ta main » dit-elle brusquement à Esther. « Non !» dit Esther en riant et en se sauvant. « Pourquoi tu veux jamais ?» lui criait Angéline. « Quand j'étais jeune, là-bas, dans l'Est, je faisais que drabareler sans arrêt. Les gens, ils aimaient bien ça. Pourquoi tu veux pas ?» Et elle repensait à sa jeunesse. Esther revenait s'asseoir à côté d'elle. Les matinées de lecture s'étaient allongées. Les enfants se concentraient plus longtemps et ne laissaient pas partir Esther. Elle lut de longues histoires découpées en feuilletons.
« Oh, mon pauvre cadichon, disait-elle, tu es un âne et tu ne peux me comprendre et pourtant tu es mon seul ami car à toi seul je puis dire tout ce que je pense,
lisait Esther. « Tu lis doucement aujourd'hui, dit Michael. C'était un reproche. « Toi, dit-il, tu connais déjà l'histoire, mais nous, on a envie d'avancer. « J'aimerais bien avoir un âne, dit Anita. « Moi aussi, dit Esther. Elle se remit à lire. « Cette vitesse convient-elle à mon petit maître ? Dit-elle en se tournant vers Michael. Il approuva. Et les autres riaient de l'entendre parodier la comtesse. Plusieurs fois, elle voulut s'arrêter. « Encore un chapitre, disaient les enfants. Elle le lisait.
« C'est Cadichon, le fameux Cadichon qui vaut à lui seul plus que tous les ânes du pays. »
« Cette fois, j'ai trop froid, » dit Esther. L'automne n'était plus rude qu'un hiver, et aucune des femmes ne l'avait jamais invité à venir lire dans sa caravane. La vieille ne quittait pas son feu. Esther l'y rejoignit. « Esther, » dit Angéline, « c'est juif comme prénom ? T'es juif, toi ?» Esther dit qu'elle l'était. « Quand je regarde le feu, » dit Angéline, « je pense à mes parents, partis vers les camps, en croyant qu'ils auraient du travail. » Elle dit cela avec un sourire embarrassé de jeune fille qui fait une confidence. Par quel miracle, songeait Esther, était-elle là, assise auprès d'un feu ? L'instant lui parut d'une intimité presque impossible. Alors que les mères avaient été violées, pour que cette plaie entre les jambes en soit vraiment une et que même ce qui avait donné du plaisir ne donna plus pour finir que de la douleur. « J'avais jamais pensé que tu étais juive, » dit Angéline. sa bouche froissée donna un baiser à Esther. Et elle restait assise côte à côte dans le silence traversé de bourrasques. « Allez, » dit Angéline. « Il est midi bien passé, rentre chez toi, voir tes fils. » Les matinées étaient devenues glaciales, mais les femmes poussaient les enfants dehors dès qu'ils étaient habillés. « Ils deviennent fous s'ils restent enfermés, » disait Missia. C'était assez cruel de les donner au vent tous les jours, il fallait à cela au moins une raison. Dans le froid vif, Michael et Sandro couraient et se battaient. Plus nombreuses, les filles faisaient cercle pour chercher à quoi jouer. Elles n'avaient ni corde à sauter, ni élastique, ni poupée et poussette, et quand le matin était trop piquant, elles pleurnichaient. De temps en temps, elles s'essuyaient le nez d'un revers de bras. Chaque mercredi, vers 11h, Esther les installait l'un après l'autre dans la voiture. Elle laissait tourner le moteur et mettait le chauffage au plus fort. « Tu vas bousiller ta batterie !» disait Sandro. « Tu crois ?» s'inquiétait Esther. Il hochait la tête. « Je coupe ?» demandait-elle. « Non !» hurlaient les enfants. Ils riaient. C'était toujours le même plaisir. La petite soufflerie ronflait. Esther prenait son livre, il ne bougeait plus, et hormis quelques reniflements, le silence était total. Elle ignorait qui de la chaleur ou de l'histoire les apaisait d'un seul coup, sans qu'ils ne demandent rien. « Ils ne sont pas difficiles, se disait-elle jamais, ils ne réclamaient jamais, ils n'avaient soif ou faim comme d'autres enfants qui ont sans arrêt besoin de quelque chose. » Elle lisait dans le calme. On entendait juste le ronflement de l'air chaud. Les enfants avaient posé leurs mains sur leurs cuisses. « Un âne comme Cadichon est un âne à part. Bah, tous les ânes se ressemblent et ont beau faire, ils ne sont jamais que des ânes. » Ils entraient petit à petit dans la chose du papier. Ce miracle, cet entre-deux. Il y a âne et âne. Certaines tournures leur semblaient drôles et ils riaient sans retenue. Esther ne s'arrêtait plus de lire pendant près d'une heure, et quand elle finissait, il s'étirait, revenant de l'autre monde, plus enveloppant, plus rond, plus chaud que celui dans lequel il retournait à peine sorti de la voiture et qui les mordait au visage comme un chien fou. D'ailleurs, Esther ne trouvait pas facilement le courage de s'arrêter de dire « C'est fini pour aujourd'hui » et de rompre en une phrase le charme créé par toutes les autres. Thank you.
bătrână. Mai bine cu o caserea, să-ți plouă, să ningă în ea, să dai apa cu vatra, să-i nevasta tinerea, măi, să vină altul la ea. Lasă-mă să-ți pun mâna unde-mi cere inima, la țițica dintreapta, murguiată ca para, rotundă ca para, oameni, mă găsește de-am blaua. Să-ți iau sfârcut, să-ți iei gură, să-l trosnesc ca pe o alună. Sfârcut, să-ți iei roșiori, să-mi vie dracii să mori.
En liberté, Denis Flageol.
Retour au roman de Alice Fernet, Grâce et dénuement. Esther referma le livre. Voilà, dit-elle, on a fini. Vous m'avez épuisé, je n'ai plus de voix. Elle regardait les enfants sortir du rêve engourdis par la lecture. Les ânes, en vrai, ça peut pas écrire, dit Anna d'une voix assurée. On sait pas, dit Michael. Anita dit, est-ce que ça existe un âne qui pense comme Gadichon? Elle attendait d'Esther une réponse. Les ânes n'écrivent pas, dit Esther, mais on ne sait pas ce qu'ils pensent, alors peut-être sont-ils plus malins qu'on ne le croit. Elle ouvrit la portière. « Je suis en retard, dit-elle. Filez maintenant. » Ils sortirent les uns après les autres en grommelant. Mais lorsque la voiture fut hors de vue, ils étaient à rire et danser. Ils avaient pris deux livres et Esther n'avait rien vu une fois de plus. Ils coururent trouver Angéline. C'était à leur grand-mère qu'ils portaient le butin. Elle prenait les livres, passait sa main sur les couvertures usées. Elle tenait là un trésor. « C'est une gadget, c'est une gadget, elle n'y voit rien, » disait-elle en riant. Quand ils avaient les livres pour eux seuls, ils ne les lisaient pas. Ils s'asseyaient, les tenaient sur les genoux, regardaient les images en tournant les pages délicatement. Ils touchaient. Palpés, doit être le geste qu'on fait quand on possède. Car c'était ce qu'il faisait, palper, soupeser, retourner l'objet dans tous les sens. Assis par terre, les enfants se chamaillaient parce que l'un d'entre eux gardait le livre trop longtemps. Puis, les femmes, Angéline la première, le prenaient à leur tour. Quelquefois, Lulu venait en dernier. Il déchiffrait des mots qu'il répétait dans sa tête. Personne ne pouvait lire. Les mères qui reconnaissaient les lettres et certains mots ne comprenaient pas le sens des phrases entières. Le livre les débordait, venait à bout de leur tête à peine avait-il commencé de se dérouler. Nadia en pleura. Non, décidément, il n'y avait pas moyen de comprendre, même en s'appliquant. Elle butait sans arrêt, ne savait plus ce qu'elle lisait, avait oublié dans l'élan pour lire la suite, ce qu'elle avait lu avant. Elle était recroquevillée sur les gros caractères noirs, selon ce réflexe usuel que l'on a d'approcher les yeux quand on accroche. Les enfants n'écoutaient rien. « Esther lit mieux que toi, » dit Sandro. Nadia n'essaya plus de lire pour eux. Ils gardaient les livres comme des talismans. Le mercredi suivant, ils les rendaient à Esther. « On te les a chourés, t'as rien vu, t'es qu'une gadjée !» Et Esther riait parce que c'était incroyable. Elle faisait attention, elle connaissait leur manège, elle cachait la caisse et elle ne s'en apercevait jamais. Quand il voulait s'amuser, il lui montrait le livre sans lui donner. Alors elle les poursuivait autour des caravanes et finissait par les attraper parce qu'ils ne pouvaient plus courir à force de rire. Ils aimaient ce jeu et leur mère ne jouait pas. Quand Esther courait ou bien se cachait pour surprendre un des enfants, les femmes hochaient la tête. « Qu'est-ce qu'elle fait ? » disait-elle. « Mais c'est une gamine !» Parfois, Angéline gardait les livres. Elle les déposait sur son oreiller. « Tu sais pas lire ?» lui disaient les enfants. « Mais qu'est-ce qu'elle fout ? » répétaient-ils entre eux quand elle ne leur avait rien rendu le mercredi. « Tu crois qu'elle se souvient qu'elle a l'alphabet ? » dit Michael. « La vieille, elle veut pas rendre l'alphabet, » dit Anita à Esther. « Tu sais le livre des lettres, » dit Sandron. « On te l'a chouré depuis longtemps. » C'était un livre en carton pour les petits avec une grosse lettre sur chaque page et des objets dont les noms commençaient par la lettre. « Vous pouvez lui laisser, » dit Esther. « Elle le lit tout le temps, » dit Carla. « Beau, » fit Sandro, « elle sait pas lire. Elle sait pas lire un mot, grand-mère. » Et ils riaient ensemble. Les mères étaient fières de les voir heureux avec des livres. Quel secret y avait-il dans les mots les uns contre les autres ? Elles pensaient que c'en était plein. « Rends-le à la gadjée, » disait Missia, la seule à ne pas aimer qu'il vole. « Évidemment, » disait Sandro en faisant une grimace, « qu'est-ce que tu crois qu'on fait d'autre ?» Elle talochait son fils sur l'oreille. « Elle m'a même pas fait mal, cette conne » bougonna-t-il en se sauvant. Les enfants n'étaient pas battus. Esther se rassurait à ce sujet. Mais cogné, oui, il l'était. Il recevait des torgnoles telles qu'elle n'en avait ni donné ni reçu. Il ne pleurait presque jamais. À cela, on aurait pu deviner leur orgueil. Ils se tenaient debout au milieu du terrain boueux, regardant partir la mère mécontente qui venait de les taper, puis ils rejoignaient les autres qui jouaient. Ils n'avaient rien à faire que courir et se battre pour passer le temps où ils n'étaient pas à l'école comme les autres enfants. C'était ce qui troublait le plus Esther quand elle arrivait, qu'ils fussent ainsi abandonnés à la liberté. Elle arrêtait le moteur et descendait de la voiture. Ils accouraient, elle les embrassait. « Dites-moi les grandes, » dit-elle un jour en se tournant vers Anita et Anna, « vous ne m'avez jamais parlé de l'école. Il n'y a pas d'école par ici ?»« Si, » dit Carla, « juste à côté, mais c'est pour les bons. »« Qu'est-ce que c'est les bons ?»« Ben c'est pas nous !» s'exclama Sandro, il riait. « Ma mère dit que c'est pas la peine d'essayer. Les gitans, ils y rentrent pas, » expliqua Anita. « Les gitans, ils rentrent nulle part, » dit Michael en donnant un coup de pied dans les cailloux. Sa chaussure de sport noire de terre n'avait plus de semelle. « Bon, » dit Esther, « en voiture tout le monde. » Ils se chamaillèrent pour monter l'un avant l'autre. Le silence se fit. Elle commença. « Il était une fois... un homme qui avait de belles maisons, à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent. » Elle lut La Barbe bleue. Et les dessins du livre étaient très beaux, mais ils furent effrayés. Les cadavres des femmes pendaient à des crochets. Dans le cabinet secret, le sol était vraiment couvert de sang caillé. « Berk !» dit Mélanie. « Moi, j'ai mal au cœur, » dit Anna en se tenant la gorge avec sa main grise. « Oh, les gonzesses !» criait Sandro. Et Esther ne savait pas s'il parlait de ses sœurs timorées ou des femmes égorgées. Elle utilisa le reste pour se marier elle-même à un fort honnête homme qui lui fit oublier tout le mauvais temps qu'elle avait passé avec Barbe bleue. Lisait Esther. « C'est fini ? » demanda Priscilla avec sa voix timide. Il reste encore la morale, dit Esther. C'est quoi la morale ? Demanda Anna. Mais tu le sais, dit Esther. Mais elle expliqua une nouvelle fois. C'est le sens de cette histoire et ce qu'elle peut nous apprendre sur ce que l'on devrait ou ne devrait pas faire. Alors ça nous apprend que nous les femmes, on devrait mieux pas se marier, dit Anita en regardant les garçons. Non, répliqua Sandro, ça nous dit que vous êtes intéressés par l'argent. Esther écoutait sans rien dire. Et même que vous pouvez épouser un homme qui vous plaisait pas tellement quand vous savez qu'il est riche, dit Michael. C'est bien fait pour elle, dit Sandro. Elle avait qu'à pas l'épouser pour avoir la vaisselle d'or et d'argent. Il répétait de mémoire. Les maisons à la ville et à la campagne. Barbe Bleue, c'était un homme d'affaires. Il rigolait pas, dit Michael. C'est pas une raison pour tuer 6 femmes, s'écria Mélanie. Il parlait sans faire attention à Esther. Leur visage était mobilisé par le débat. Il y eut le clan des filles et celui des garçons. Et ils demandèrent à Esther dans lequel elle voulait être. Esther les complimenta. Ils avaient beaucoup d'idées. Ils étaient des enfants vifs et intelligents et elle aimait leur faire la lecture. Avec qui t'es ? Insista Sandro. Avec vous tous, dit Esther, et j'adore vous écouter discuter. Ils semblaient stupéfaits qu'on leur parlât d'eux, et pour les féliciter. Ils se blottirent contre elle. Elle sentait la chaleur qu'ils dégageaient. Les vitres de la Renault étaient couvertes de buée. Chantez-moi une chanson, dit-elle, avant que je rentre chez moi. C'est comment chez toi ? Demanda Mélanie. Mais les autres chantaient déjà, ils chantèrent Petit Papa Noël, que leur avait appris Angéline, et Esther pensa que oui, Noël approchait. Pour Noël, les tziganes font une fête énorme, dit Angéline. Même ceux qui n'ont rien, ils se débrouillent, mais ils font une fête. Ma mère, elle faisait la pute, fit-elle d'une voix basse. À la fois dans le ton et le volume. C'est le seul moment de l'année où elle couchait. À la fin, tous les hommes du coin, ils le savaient. Et même qu'ils attendaient Noël avec impatience, comme les gosses. Il faut dire que ma mère était belle femme. Ils venaient la voir juste pour ça. Crac, crac, et au revoir. C'est cochon, dit-elle en riant. Mais Esther ne rit pas. Il faisait un temps gris et glacial. Le vent ne s'arrêtait jamais. Le feu puait. La vieille souriait, mais ses dents étaient noires. Nadia, Missia et Milena venaient ensemble vers Esther. « On a un cadeau pour toi, » dit Missia en lui tendant un sac en plastique entouré d'une ficelle. Esther défit lentement le nœud. Elle déplia un chemisier noir en satin, avec une encolure décolletée chargée de volants et de dentelles. Elle le tint contre son buste pour montrer l'effet. « C'est sa taille, » dit Milena. Et Missia lui dit « Tu seras belle là-dedans. »« Merci, » dit Esther, « ça me touche beaucoup. » Les femmes parurent gênées à ce moment. Elle pensa « Jamais je ne pourrai mettre un truc pareil. » en même temps qu'elle remerciait encore. « C'est gentil à vous de me faire un cadeau. Merci beaucoup. » Elles avaient dû le voler dans un magasin ou bien les hommes avaient fait un cambriolage. Esther s'en doutait. Ils sortaient parfois de leur poche des objets qu'ils n'auraient pu dénicher autrement. Des étuis à cigarettes en argent, des réveils, des bijoux. « Tu m'achètes ? » demandait-il à Esther. « Il fume pas ton homme ?» Elle secouait la tête pour dire non. En réalité, c'était oui. Mais elle mentait pour n'avoir pas besoin d'expliquer qu'elle ne voulait pas acheter ce qu'ils avaient dérobé à une autre personne. Le gitan n'avait rien à perdre. Il volait et elle ne voulait pas y penser. Elle les désapprouvait, mais elle aurait fait un faux témoignage pour les sauver. Elle était à se l'imaginer. en rangeant le chemisier dans son sac. Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc la suite de ce roman de Alice Fernet, Grâce et dénuement, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.